Bonjour à tous. France Culture, il est tout juste midi. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table. Mais tout de suite, quelques titres du journal de 12h30 présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Toujours ce face-à-face gouvernement CGT dans le conflit des raffineries. Les accès aux dépôts pétroliers et à la raffinerie de Fos-sur-Mer ont été dégagés ce matin par les forces de l'ordre. Selon la CGT, la grève toucherait maintenant toutes les raffineries. 20% environ des stations-service continuent de connaître des difficultés d'approvisionnement. On fera un point complet avec Annabelle Grelier. Malgré les coupes budgétaires, François Hollande juge ce matin sur France Culture indispensable le travail de la recherche. Hier, 7 prix Nobel français dénonçaient dans une tribune publiée dans Le Monde la décision du gouvernement de procéder à d'importantes annulations de crédits pour la recherche, qualifiée même cette décision de suicide scientifique et industriel. On y reviendra. François Hollande et l'histoire, donc, invité ce matin de la fabrique de l'histoire. Frédéric Seyss a suivi pour nous cet entretien avec Emmanuel Laurentin. Il nous en rendra compte. Et puis un mot, évidemment, de ce qui se passe au Proche-Orient, puisqu'il y a la visite de Manuel Valls aujourd'hui en Palestine, à Ramallah précisément. Le Premier ministre s'est heurté hier à Jérusalem à l'opposition de Benjamin Netanyahou à son projet de conférence internationale. Ce matin donc, M. Valls a rencontré son homologue palestinien, selon qui Netanyahou essaie, je cite, de gagner du temps avec sa contre-proposition d'organiser une discussion bilatérale à Paris. L'invité de la séquence interview pour parler de cette question, Frédéric Ancel, spécialiste du Proche-Orient. Voilà pour les titres. C'est à vous, Caroline, la Grande Table qui commence.
La Grande Table qui commence avec un invité unique et dans tous les sens du terme. Un invité à qui on doit quelques sueurs froides et des frissons. De Turkish Delight à Black Book, de Robocop à Starship Troopers, en passant par l'inévitable Basic Instinct. Il rentre tout juste de Cannes, où il présentait son dernier film, En compétition. Un film qui réunit quelques-unes de ses obsessions. Le sexe, la violence, les fantasmes, le voyeurisme, la perversion, la religion, la provocation, dans un thriller redoutablement retors et malsain, une sorte de comédie de viol glaçante où règnent à la fois une grande tension et un humour léger tout à fait désarçonnant. Paul Verhoeven est avec nous, bonjour.
Merci beaucoup, bonjour aussi.
Merci d'être avec nous. Paul Verhoeven, je disais que vous étiez à Cannes, où vous présentiez en sélection officielle, en compétition même, ce film qui sortira demain sur les écrans. Vous revenez de Cannes avec un sentiment de réussite, porté par l'enthousiasme de l'accueil, ou bien avec le regret d'être bredouille puisque vous n'avez pas été au palmarès?
Non, that's really not... What really happened to me,
bon, ce qui m'est véritablement arrivé, c'était la crainte que le film ne soit même pas sélectionné. Pour moi, c'était excessivement important au cours de ces deux derniers mois de voir si le comité de sélection accepterait le film. Et le fait que ce film ait été sélectionné était véritablement pour moi la chose la plus importante. Prix ou pas, bon, ça aurait été chouette, mais après la projection qui était c'est très très bien passé, les gens étaient enthousiastes, il y a eu des applaudissements pendant quasiment un quart d'heure, il
ne
pouvait rien avoir de mieux.
I also have to say, of course,
et je dois dire aussi
the possibilities that I got in France to make this movie,
les possibilités que j'ai eues en France de faire ce film, de réaliser ce film, ont été extraordinaires. Et en premier lieu, Isabelle Huppert.
Paul Verhoeven, c'est effectivement un film français. C'est le premier film français que vous faites, adapté d'un roman français de Philippe Djian qui s'intitulait haut. Il a été tourné en France avec des acteurs français, au premier rang desquels Isabelle Huppert, qui occupe le rôle principal et qui crève l'écran, je pense que là on peut le dire de cette façon-là. Est-ce que cela veut dire que l'accueil français peut être différent, puisque tout ça est français? Est-ce qu'au final, vous avez le sentiment d'avoir fait un film français?
C'est intéressant parce que, à l'origine, lorsque le livre m'a été envoyé par le producteur, le livre de Philippe Djian, il m'a demandé de le lire, il m'a demandé si je voulais faire un film de ce livre. Mais je crois que dès le début, on a pensé que ça serait un film américain. Et donc, j'ai pris un scénariste américain,
David Burke.
David Burke. Et on a écrit tout le scénario en anglais. De telle sorte que toute cette situation qu'avait imaginé Philippe Djian, qui est Paris et les environs de Paris, était devenue totalement américain. C'était situé dans les environs de Boston. Et ça aurait été réalisé totalement par des acteurs américains, des actrices américaines, évidemment. C'était l'idée, au départ. Et puis, on s'est rendu compte que ce scénario subversif, quelque chose qu'on n'appellerait pas totalement politiquement correct, ce serait plutôt politiquement incorrect. Ça aurait été impossible de trouver des actrices américaines de haut niveau qui accepteraient de faire ce film. Il y avait 6-7 actrices qu'on a approchées qui ont dit immédiatement non.
Alors, après, on s'est dit, we are going back to France.
Voilà, on retourne en France.
We forget about the United
States. On oublie les États-Unis, on oublie Seattle, Chicago, Boston, on revient à Paris, on revient à Isabelle Huppert, parce que je savais dès le début que Isabelle Huppert voulait faire ce film. Et dès le début, bien avant que moi j'aie lu le livre, elle en avait déjà parlé à Philippe Djian et au producteur. Donc on savait qu'elle voulait faire le film. Je dirais, grâce à Dieu, je le dirais presque. Je ne suis pas tellement religieux, mais bon. J'ai vraiment senti qu'on était vraiment sauvé par la grâce, qu'on est revenu là où ça n'aurait jamais dû être ailleurs, avec Isabelle Huppert, un film français situé à Paris, en France.
Avec Isabelle Huppert, avec Laurent Lafitte, avec Anne Consigny, Charles Berling, Virginie Efira, Judith Magre et bien d'autres encore, Paul Verhoeven.
Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, rentre. Salut.
Ça va, toi?
Ça va.
C'est quoi, ça?
J'ai fait une chute à vélo. Il faut changer toutes les serrures, en haut et en bas. J'ai quelque chose à vous dire.
Violée?
Mon Dieu.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les flics? T'as pas été les voir?
Bon, on commande.
J'ai pris sur le vif. Il était accroupi dans les buissons en train d'observer votre maison.
Et vous avez vu son visage?
Non, il portait un masque ou une espèce de cagoule de ski.
Tu la raccompagnes?
Hein?
Non, c'est pas la peine. C'est joli ton truc, là. Tu vas au ski?
Quand tu veux, je t'emmène.
Elle, c'est l'histoire de Michel, qui est donc interprétée par Isabelle Huppert. C'est une femme française, donc, qui habite près de Paris, qui travaille dans une boîte de production de jeux vidéo et qui approche la cinquantaine. Elle vit seule avec son chat depuis qu'elle s'est séparée de son mari, Richard, interprété par Charles Berling, et depuis que son fils de 24 ans environ, Vincent, a quitté la maison pour vivre une romance avec une jeune femme qui est pourtant enceinte d'un autre homme. Michel a un amant, Veulet Fallot, qui est le mari de sa meilleure amie, à Anna, une mère fantasque de 75 ans avec qui elle entretient des relations exécrable et un père monstrueux qui n'a pas laissé que des bons souvenirs dans la famille. Paul Verhoeven, quand le film commence, Michelle est par terre. Elle vient d'être violée par un homme cagoulé qui s'est introduit chez elle par effraction. L'homme repart, elle se relève et elle balaie les verres cassés qui sont restés par terre. Est-ce que ce film pour vous est, partant, le livre de Philippe Djian, c'est d'abord l'histoire d'une femme qui ne tombe pas, jamais. Il lui arrive les pires choses, pas le viol bien sûr, et puis d'autres choses dans sa vie à ce moment-là. Elle ne tombe jamais.
Well, that's certainly the case. Yes,
that was, c'est tout à fait le cas, bien sûr. C'était déjà dans le roman de Philippe Djian. On ne l'a pas inventé. Même si elle semble être victime et qu'elle est victimisée, elle va toujours se relever. Et c'est très important, même dans ces deux premières scènes, quand on la voit nettoyer, et puis voilà, elle va prendre un bain. Et puis elle se commande des sushis. Et puis son fils vient et elle ne veut pas en parler. C'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement, c'est une femme extrêmement forte qui n'acceptera pas le fait qu'elle ait été victime. Et pendant tout le film, on peut dire que c'est la voie pour le changement de rôle, l'interversion des rôles. Pour changer sa position de victime au départ, pour être à la fin la personne qui soit en contrôle, le gagnant, le vainqueur. C'est, elle perd contrôle pendant un instant, mais elle ne veut pas être déprimée par cela, mais elle veut le surmonter et aller de l'avant, jusqu'à la fin tragique du film. Pas tragique pour elle, hein.
She's okay at the end.
Elle va bien à la fin du film.
She went the whole path and
elle, elle a franchi tout le chemin. Elle est arrivée là exactement où elle voulait être. Même dans la tragédie, et ça sent très clair dans le film, au moment le plus haut de la tragédie, il y aura un petit sourire sur le visage. Elle est arrivée là où elle voulait arriver.
Paul Verhoeven, non seulement il y a l'histoire de cette femme qui est à la fois extrêmement puissante et vulnérable. Je me souviens, Philippe Djian, au moment de la sortie du livre, disait que c'était une femme si forte et si faible, reposant sur ses deux jambes-là en permanence. Non seulement c'est l'histoire de cette femme, mais c'est aussi un climat. Philippe Djian avait voulu faire un conte cruel. Votre film, me semble-t-il, est un conte aussi, mais un conte fantasmagorique. Plein des fantasmes de cette femme, plein des fantasmes du monde dans lequel elle évolue. Ce n'est peut-être pas pour rien que vous avez fait en sorte que cette femme soit en fait une productrice de jeux vidéo. On voit beaucoup d'images de jeux vidéo, beaucoup de regards aussi, de champ contre champ, les yeux du chat, par exemple, qui assiste à la scène. Ce sont des images projetées. Contes fantasmagoriques, c'était votre idée ?
On peut le considérer de cette manière-là, oui. Mais ça a beaucoup à voir avec la transformation du roman en art visuel. Transformation de mots en images. Et par exemple, dans le film, en fait, dans le roman, elle est patronne d'une entreprise qui s'occupe de scénaristes qui travaillent pour la télé et le cinéma. Et elle dit au scénariste, non, ça c'est pas bon, on recommence. Elle est déjà là, elle est complètement en pouvoir, mais ce n'est que des mots. Et on a senti, quand on a travaillé sur le scénario, que fondamentalement, dans un film, parler d'autres films, parler de séries télé et parler d'intrigues qui n'ont rien à voir, ça serait tellement abstrait qu'on a senti qu'il fallait quelque chose de différent en tant que job pour elle. Et ce qui est arrivé, j'étais avec ma famille, avec ma femme et mes deux filles, et je leur ai raconté. Je leur ai dit, c'est pas comme ça, c'est bien dans le roman, mais pour nous, dans le film, ça va pas fonctionner. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on pourrait trouver pour lui donner un autre emploi,
une
autre profession. Et ma fille la plus jeune, qui est peintre en fait, elle m'a dit, eh ben pourquoi pas les jeux vidéo ? Et ça...
Really, that felt extremely to the point.
Ça semblait extrêmement à sa place. Parce que mon scénariste américain connaissait tout des jeux vidéo. Moi, j'en connaissais rien. Ben, j'en ai vu, bien sûr, mais je travaille pas sur ces trucs-là. Et donc, on a complètement changé et on l'a transformé en patronne d'entreprise de jeux vidéo. Et toute cette histoire de jeux vidéo, c'est devenu un second récit parce que ça continue dans le film, on voit des éléments. Il y a des déformations, il y a aussi une version pornographique de ces éléments. Et ça fait partie du film aussi, mais c'est un récit parallèle. Donc ce jeu vidéo devient aussi, allez, disons, une métaphore du film. C'est exactement ce qu'on voulait.
Oui, récit parallèle, en même temps, Paul Verhoeven, ces images de jeux vidéo viennent de façon récurrente dans la narration, comme pour l'interrompre ou comme pour la prolonger. De la même façon que les images de viol, les souvenirs du viol, filmés de façon différente à chaque fois, viennent ponctuer cette narration. D'où ce sentiment, sans doute voulu chez vous, qui fonctionne très très bien, que le spectateur ne sait plus où il est. Il ne sait plus si cela s'est vraiment passé, si on est encore dans un monde parallèle, comme celui des jeux vidéo, si on est dans sa tête, si ce jeu très pervers, très dangereux, que elle instaure, Michel, avec son violeur, n'est pas quelque chose qu'elle crée. Au début, on la voit avec une image où elle tue son violeur. Mais on se rend compte que ça n'est pas la réalité, c'était un fantasme. Et donc finalement, à tous les moments du film, on se demande si elle ne nous mène pas en bateau ou si vous ne nous menez pas en bateau, nous spectateurs. On ne sait plus si elle le tue, si elle a un orgasme avec lui. On passe par tous ses sentiments. Elle est fondamentalement ambiguë, mais votre regard à vous l'est. Et c'est ce qui fait la force de ce film.
Oui, et je crois que ça fonctionne seulement. This only functions in fact.
Ça ne fonctionne en fait que
because we have Isabelle Huppert.
Parce qu'on a Isabelle Huppert.
It is very difficult for me to see now in retrospect.
Ça m'est très difficile de voir aujourd'hui, rétrospectivement, qu'il y aurait pu avoir quelqu'un d'autre parce que elle y croit. Et parce que elle y croit, ça devient croyable pour le public.
This enormous
et là,
talent,
ce talent énorme d'entrer dans ce qu'on pourrait appeler ces zones sombres, les accepter et les intégrer dans son jeu.
And because she believes it,
et parce qu'elle y croit,
I think the movie
je crois
could,
que...
Could The movie did work because she
le film fonctionne
that.
Parce qu'elle y croit. Je crois qu'il y a cru encore plus que moi. Je crois qu'elle en savait plus sur son personnage que moi. Je n'ai pas vu dans le livre, mais même dans mon scénario, non, même pas dans ma tête. Mais elle a fait sortir des choses sur le terrain, sur le... Moi, ça m'a complètement étonné. Il y a eu des séquences où elle a continué de jouer et je ne pouvais même pas l'arrêter. J'étais tellement fasciné à la regarder. Et je crois véritablement que c'est un tel talent au-delà du talent.
I mean, I think I'm not say, perhaps you shouldn't say she saved the movie.
Il faudrait peut-être pas dire que c'est elle qui a sauvé le film, parce que bon, le film était déjà intéressant en tant que tel, le roman était bon, mais elle a donné à toutes ces choses un niveau d'honnêteté, d'authenticité.
That basically makes
qui fondamentalement fait accepter le fait que même après qu'elle ait découvert qui était le violeur, rend possible le fait de la suivre dans une direction qui est totalement non-américaine. Elle ne va pas vers la vengeance, elle va dans une direction totalement différente. Et pour beaucoup de gens, ça serait pas la voie qu'ils auraient choisie. Mais bon, elle fait que ça fonctionne.
C'est quoi ça? Ah, vous êtes un très mauvais catholique, vous connaissez pas le rite d'excommunication?
Et vous, oui.
J'en ai entendu parler, oui. Mon père me faisait toujours le signe de croix comme ça. Avant d'aller à l'école. Il le faisait d'ailleurs à tous les enfants du quartier. Mais il y a des parents qui ont fini par lui demander d'arrêter.
Ça peut se comprendre.
Oui, enfin, mon père, apparemment, il l'a mal pris. Hein. Il a fait sa tournée ce soir-là. Il a frappé à toutes les portes. Il est rentré dans toutes les maisons du quartier avec un fusil à pompe, un marteau de boucher et une paire de couteaux de cuisine.
Oui, je crois que j'ai déjà entendu parler de cette histoire.
Ah oui, mais vous avez entendu parler des 27 victimes humaines, mais vous n'êtes pas au courant pour les animaux. Bizarrement, on n'en parle jamais. 6 chiens. Des chats, aussi. Pour une raison qu'on ignore, il a épargné un hamster. Ça ne s'invente pas. Moi, j'étais en train de faire mes devoirs quand il est revenu à la maison. Complètement couvert de sang. Ma mère était encore au travail. Elle était infirmière à l'époque. Mais vous imaginez, ma mère? Infirmière. C'est rigolo, non?
On n'est pas obligé de parler de ça, vous savez.
Ah non, mais ça me dérange pas. Ça me fait du bien d'en parler. Après, il a voulu brûler tout ce qu'il y avait dans la maison. Alors, je l'ai dit à tout mettre dans le feu. On arrachait tout. Les rideaux, la moquette, les tables, les chaises. Tout dans le feu. C'était très excitant. Hein. Ça vous galvanise, un truc pareil. Et juste quand on allait mettre les vêtements dans le feu, la police est arrivée. Quelqu'un m'a pris en photo. Et bizarrement, c'est cette photo-là qui est restée gravée dans la mémoire des gens. De moi, à moitié nue, couverte de cendres. La photo de la petite fille psychopathe. À côté de son père. Psychopathe. J'ai un regard vide sur la photo qui est terrifiant. Pas mal, hein?
Un extrait qui dit beaucoup de choses, Paul Verhoeven, de ce que vous venez de dire à propos d'Isabelle Huppert. On entend la tension qui règne avec la musique derrière. On entend, par ce qu'elle raconte, qui est totalement terrifiant, ce côté victime d'elle. Elle a été traumatisée, elle est blessée par ce que son père monstrueux a fait. Et en même temps, elle le raconte d'une façon à la fois glaçante et avec beaucoup d'humour. On rit. On rit. Et dans votre film, la dérision est permanente. Elle désamorce la tension. Ça devait être risqué, ça, parce que le rire, le sourire ou l'humour peut faire qu'on sort du film. Alors que là, on est complètement dedans du fait même que vous alternez en permanence entre cette tension et cet humour.
On peut dire que c'est jamais à le même moment. Il y a la tragédie et de temps en temps, c'est interrompu. Also, in the way that Michel, that Isabelle.
De telle sorte que Isabelle le joue.
Lightness comes in.
Soudain, il y a une certaine légèreté qui pénètre le film, et puis elle disparaît.
Immediately back into this kind of morbid tale.
On revient immédiatement vers l'aspect morbide de la chose.
Again, you know, I mean, an actress that
vous
can
savez,
do that.
Une actrice capable de faire ça.
Right,
vous avez parfaitement raison. C'est risqué. Parce que si les gens rigolent trop, on les perd. Et ils vont dans la mauvaise direction. Mais elle va exactement là où elle veut aller. Il y a 2 ou 3 secondes où elle met une certaine objectivité. Voilà, par exemple, vers la fin de l'histoire, parce qu'elle a tout raconté, à quel point c'était terrible. Et quand ces gens ont tué les chiens et les chats, à la fin, quand elle a raconté toute l'histoire, il y a une petite pause.
Laurent Lafitte, qui est l'homme, elle est complètement stupéfaite.
L'acteur est totalement stupéfait. Et puis,
pas mal, hein?
Elle dit ça.
Ah, mais ça, c'est Isabelle Huppert qui a inventé ça. Hein?
Elle savait qu'à ce moment-là, elle pouvait, elle devait casser, briser la tension est passé dans un mode différent. Et puis quand on écoute très précisément cette scène et la musique, au début, il y a cette messe, à la télé, sur l'écran de la télé, il y a la messe, c'est la messe de Noël, le pape, et puis à un moment, quand leur histoire, leur récit commence, quand elle raconte ce qui lui est arrivé quand elle avait 10 ans, dans la même gamme, la musique prend le pas. La musique de la messe arrive et on ne fait pas attention. Mais soudain, on est tout à fait dans une autre atmosphère. Elle reste là, la musique du film. Et à la fin, lorsqu'on arrive à cette réplique pas mal, voilà, on retourne à la messe. On a joué avec ce type de vous faire pénétrer totalement dans le récit, dans l'histoire, et l'aspect tragique de l'histoire, mais aussi à un certain moment, on prend un pas en arrière, et voilà, et elle rigole.
Ce qui est très fort aussi, Paul Verhoeven, et dans ce que vous racontez, on entend bien votre façon de faire, c'est que vous êtes assez unique dans votre genre parce que vous n'avez cessé, et ça tout au long de votre carrière, même avec 4 films de science-fiction, vous n'avez cessé de d'osciller, d'alterner entre des films d'auteur et des blockbusters. Ce film-là aussi, c'est à la fois un film d'auteur qui peut évoquer la tension chez Hitchcock, qui peut évoquer Polanski ou Buñuel par ses jeux pervers, ce côté malsain, ce côté tordu, et en même temps, il y a de quoi faire un blockbuster. Vous avez des racines européennes, vous êtes hollandais, vous avez 25 ans de carrière en Hollande, vous êtes allé travailler aux États-Unis, 15 ans de travail aux États-Unis où vous vivez toujours. Est-ce que c'est cette double culture qui vous fait marcher à la fois dans le cinéma d'auteur et dans le blockbuster américain?
Yes, that could well be, but it was
ça pourrait être le cas.
Mais
c'est pas quelque chose que j'avais planifié. C'est pas un plan de carrière. Ça m'est arrivé.
Mon
départ des Pays-Bas vers les États-Unis en 85, c'est pas parce que j'avais envie d'y aller. C'est tout simplement la situation financière aux Pays-Bas. Et c'est devenu tellement difficile là-bas.
Left-wing movement.
Il y avait un tel mouvement de gauche
significant movies
pour qu'il y ait des films significatifs à l'époque. Et puis bon, moi, les films, c'est les films que je fais. Je pense qu'ils ont un sens, mais ils n'avaient pas de message. J'ai pas de message. Donc, je suis parti aux États-Unis. Et c'était plus un exil pour moi. C'était comme, j'ai fait des films là-bas, les films que je pouvais faire.
Et en
Hollande, il y a eu plusieurs projets que j'ai tenté de monter. Et j'ai tenté de monter ces projets aux États-Unis. Mais bon, en Hollande, c'était impossible. Je n'ai pu faire là-bas que ce que d'autres personnes voulaient déjà faire. Donc la différence entre les États-Unis et les Pays-Bas et la France, c'est qu'en Hollande et en France, j'ai fait exactement ce que j'aimais faire. Et quand j'étais aux États-Unis, je suis revenu à ma jeunesse, en quelque sorte, quand j'étais un fan de BD, quand il y avait Tintin. Tintin, c'était mon héros. C'est pour ça que j'ai fait des films de science-fiction comme Robocop et Total Recall et Star Trek Shooter. Il y avait un élément de légèreté. C'était du Hergé, c'était du Tintin.
Vraiment, vraiment, ça me grabbing the past, my love for
c'est vraiment étreindre mon passé, la légèreté d'un Tintin, par exemple, et l'utiliser pour survivre aux États-Unis.
Mais là, vous allez rester en France, Paul Verhoeven. Le prochain film sera français, ce pays de la liberté.
Bien sûr, mais alors, depuis quelques années, je me suis rendu compte que c'était mieux d'être en France.
Eh ben, restez-y pour faire d'autres films formidables comme ce Elle qu'on pourra voir demain en salle sur les écrans français. Merci beaucoup d'être venu au micro de la grande table entre-temps et merci beaucoup à Michel Zlotowski qui a assuré, on l'a reconnu, l'interprétation simultanée de vos propos. Dans un instant, c'est le journal et la suite de la grande table.